Bonjour, pour ce nouveau numéro de La Perle à rebours, je reçois avec les complicités d'Agnès Diez, de Laurent Messager, de Yann Le Tailleron, Anthony Pouliquen, l'auteur et l'interprète d'une conférence gesticulée intitulée « Une autre histoire des classes sociales ». C'est un outil d'éducation populaire et de genre comico-pédagogique qui a été inventé par Franck Lepage, qui à l'époque faisait partie d'une SCOP, le SCOP Le Pavé. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre, Anthony, par outil ?
C'est un objet d'interpellation publique autour de sujets politiques. En l'occurrence ici, moi je parle des classes sociales. Et c'est un objet un peu hybride. Pour définir la conférence gesticulée, on utilise souvent la métaphore du Scooby-Doo. On n'aurait qu'à dire que la conférence gesticulée, c'est un Scooby-Doo, et qu'il y aurait trois fils.
Interprété par un schtroumpf.
Et le gesticulant, plus que le schtroumpf, il va essayer de se démerder pour faire un tressage. En public, hein, le tressage de ces trois fils, le premier fil, c'est le fil autobiographique, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui sur scène parle de sa propre histoire, c'est son récit de vie, et qui va faire partager des savoirs, les savoirs de l'expérience. Le deuxième fil, c'est le fil de la conférence, hein, puisque à partir de son expérience, il va essayer d'en tirer un certain nombre de savoirs théoriques, conceptuels, qu'en règle générale, on entend plutôt en conférence classique ou dans les bouquins de sciences humaines. Et le troisième fil, c'est le fil théâtral, avec une légère mise en forme. C'est un spectacle, on peut le dire comme ça. Une légère mise en forme pour pas que la forme prenne le dessus sur le fond. Hein. Et ce Scooby-Doo, bah, il a un objectif, il a une finalité, hein, très, très modeste. L'objectif d'abattre le capitalisme. Aujourd'hui, il existe 150 conférences gesticulées. Et on est porteur avec tant de dizaines et de centaines de milliers de militants, hein, porteurs de cet objectif. Hein.
Et en quoi cet outil est plus approprié, plus efficace, plus perspicace qu'une simple conférence ou qu'un simple spectacle seul en scène ou un duo, parce que parfois c'est interprété par deux personnes?
C'est du savoir incarné. C'est du savoir incarné. Alors ça, c'est Brecht qui le disait. Il disait que
Bertolt
le savoir... Oui, Bertolt Brecht, qui disait le savoir déconnecté de l'émotion, ça ne fonctionne pas, et l'émotion déconnectée du savoir, ça ne fonctionne pas non plus. C'est-à-dire que pour qu'il y ait transformation, il faut qu'il y ait les deux. Et la conférence gesticulée, c'est un pari, c'est le pari de faire se rencontrer l'émotion et les savoirs. Hein. Ou dit autrement, de faire se rencontrer les savoirs chauds, donc les savoirs de l'expérience, les savoirs qu'on a tous en nous, qui sont contenus en nous, et les savoirs froids, qui sont des savoirs distanciés, qui ont fait l'objet de recherches, souvent dans le cadre de laboratoires universitaires ou autres. Et en fait, la rencontre entre les savoirs froids et les savoirs chauds, ça ne crée pas du tout du savoir tiède, hein. Ça crée un savoir utile pour l'action collective et pour l'action militante. Hein. Et donc, l'idée de cette conférence gesticulée, c'est de donner à voir une trajectoire de vie qui contient un bout d'universel, c'est-à-dire dans ce que raconte un gesticulant, bien souvent ça fait écho à nos propres vies, à nos propres expériences, à nos propres trajectoires, et d'essayer de l'analyser politiquement, c'est l'étape de la conscientisation, comment on prend conscience à travers une histoire de vie ainsi analysée, de mécanismes de domination à l'œuvre, de rapports sociaux de domination, et comment est-ce qu'on peut agir dessus, ce qu'on pourrait appeler de façon un peu pompeuse l'émancipation. Hein.
Un témoignage, un besoin d'une caution d'intellectuel, de philosophe, de référence pour lui donner pleinement une valeur.
Oui, en tout cas, l'idée, c'est de dire que l'expérience ne suffit pas. Ça, c'est un activiste américain qui s'appelait Saul Alinsky qui expliquait cela. Il disait, en fait, on apprend, l'expérience ne nous sert que très peu, sauf de prendre le temps de la trier et de l'analyser. Effectivement, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'on peut reproduire les mêmes erreurs tout au long de notre vie si on ne prend pas conscience de ces erreurs, donc si on ne prend pas le temps d'analyser son expérience. L'idée de l'analyse de cette expérience, effectivement, d'en produire du savoir, de le relier aussi à d'autres qui ont pu travailler sur le sujet et qui viennent un peu nous éclairer et nous permettre, par cette prise de conscience, pour faire vite d'exercer un meilleur contrôle collectif sur les institutions qui nous oppressent, qui nous aliènent, qui nous dominent, et de mieux agir sur ce monde pour le transformer.
Alors, vous l'avez clairement indiqué, et c'est aussi très présent dans donc, la conférence gesticulée, donc c'est une démarche politique, avec une ambition, abattre le capitalisme, c'est pas rien.
Dans le réseau des gesticulants, on aime bien dire que les conférences gesticulées, c'est pas le seul outil, il en existe tellement d'autres, hein, mais ça vise à offrir du temps de cerveau disponible à la révolution. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est convaincus effectivement que le capitalisme est un système mortifère qui effectivement est récent dans l'histoire de l'humanité, qui a un peu plus de 2 siècles, qui vit probablement la deuxième phase de sa vie. Et donc, il arrivera un moment où le capitalisme s'écroulera de lui-même, parce qu'en tout cas, on l'aura forcé à cela. Et en fait, il va falloir s'organiser après. Il va falloir s'organiser et tout ce que l'on met en œuvre, c'est-à-dire tous ces espaces de réflexion, tous ces espaces où on essaye de se construire un point de vue sur le monde et d'essayer de faire preuve de lucidité sur ce monde, et ben, ça vise aussi à préparer cet après, ou comment est-ce que demain, on s'organise pour dépasser le capitalisme et imaginer cet après.
Marx n'avait pas déjà tout pensé ?
Marx, il avait effectivement, dans sa théorie sur la lutte des classes, il avait effectivement pronostiqué la victoire du prolétariat, puisque les prolétaires sont les détenteurs de la force de travail, donc ce sont eux les créateurs de richesses, et qu'effectivement l'histoire devait permettre la victoire du prolétariat. Alors on n'en est pas là, aujourd'hui encore, peut-être que la bourgeoisie est dans une période plutôt faste, c'est-à-dire qu'elle est très cohésive, elle est très organisée, elle est très structurée, il y a une vraie conscience de classe aussi dans la bourgeoisie. Pour autant, l'histoire nous montre que l'engagement au service de la Révolution n'est pas un long fleuve tranquille, c'est fait de haut, c'est fait de bas. La Révolution 1789, c'est rien d'autre qu'une classe qui chasse l'autre, c'est les aristos qui se font virer par les bourgeois. Les bourgeois ont mis 4 siècles pour prendre le pouvoir. Nous, ça fait 2 siècles et demi qu'ils sont au pouvoir. Il va nous falloir encore un petit peu de temps, mais ça va y arriver, c'est sûr.
C'est pas votre première conférence, il y en avait une précédente sur le sport. C'est une poursuite ? C'est une déclinaison ?
Alors c'est une poursuite, oui et non. C'est-à-dire que oui, dans le sens que dans les deux cas, je viens interroger mon propre parcours, ma propre trajectoire, mon matériau premier d'analyse, c'est effectivement mon histoire de vie. C'est le principe effectivement des conférences gesticulées, de partir de sa propre histoire. Donc dans les deux cas, je me donne en jeu, je me donne à voir à travers mon propre parcours de vie. Oui également parce que dans les deux cas, j'interroge les véhicules de l'idéologie capitaliste. Dans un cas, je présente le sport comme un de ces véhicules de l'idéologie capitaliste. Dans la deuxième conférence, c'est toute la deuxième partie de ma conférence, je parle de la culture comme véhicule idéologique du capitalisme. Donc en fait, j'y vois une continuité, puisque à chaque fois, j'essaye d'analyser les rouages de la domination, les rouages du capitalisme, et je prends dans la première conférence l'exemple du sport, dans la deuxième, l'exemple de la culture, pour venir interroger cela. Je parlais tout à l'heure de l'impératif révolutionnaire. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix dans un combat qui se penserait de gauche que de penser la révolution comme condition nécessaire à l'abolition du capitalisme. Je pense que l'idée que le capitalisme pourrait être réformé, l'idée qu'on pourrait le moraliser, on a suffisamment d'exemples pour montrer que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire le capitalisme, on l'accepte ou on le combat. Et dans cette perspective révolutionnaire, mon hypothèse, l'hypothèse que je développe tout au long de la conférence, c'est qu'il y a la nécessité d'une alliance entre les deux cœurs sociologiques de la gauche, les deux cœurs historiques de la gauche, à savoir la petite bourgeoisie intellectuelle et la classe ouvrière. Ce que Gramsci avait déjà théorisé à son époque, il parlait du bloc historique. Ce bloc historique, c'est lorsque les deux cœurs sociologiques de la gauche se mettent à battre ensemble au service de la révolution. À plusieurs moments de l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Enfin, au moment de la Commune, au moment du Front populaire, au moment du Conseil national de la Résistance, c'est bien ces deux classes qui ont fait alliance. Et effectivement, ce que je tente de démontrer dans ma conférence gesticulée, c'est que la période post-68, ça a même pris racine au début des années 60, a été marquée par un nouveau positionnement, cette petite bourgeoisie intellectuelle qui était privée du pouvoir, que ça a frustré énormément, et qui a voulu s'inviter au banquet du pouvoir et qui, pour cela, acceptait de faire alliance avec la classe dirigeante, de faire alliance avec la bourgeoisie. C'est sur le territoire nantais, Jean-Marc Ayrault, ancien prof d'allemand, petit bourgeois intellectuel, qui n'hésite pas à faire alliance avec Vinci pour ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'est un exemple, mais un exemple parmi tant d'autres, de cette petite bourgeoisie intellectuelle qui vient pour la plupart, gonflé les rangs du Parti socialiste, avec désormais l'impératif de sauver le capitalisme, c'est-à-dire en gros de réussir à chaque fois qu'elle est au pouvoir à faire passer toutes les mesures que la droite n'arrive pas à faire passer quand elle est au pouvoir. Et évidemment, ça se fait au détriment des ouvriers qui vont être complètement délaissés, qui vont être complètement mis sur le bas-côté, et qui aujourd'hui ont même quasiment disparu des discours. Hier, Emmanuel Macron nous parlait des classes moyennes, comme c'est les dindons de la farce, ceux qui avaient été oubliés par l'action des politiques depuis les dernières décennies, ce qui est juste faux, les vrais absents, des réformes, comme on le dit, des mesures mises en place par les gouvernements successifs, de droite comme de droite, hein, depuis 50 ans, ce sont les ouvriers, évidemment. Et la loi El Khomri est un de ces exemples supplémentaires. Le discours politique nous parle des classes moyennes, moi je préfère parler des couches intermédiaires parce que ça désigne davantage ce que c'est. C'est-à-dire ces couches-là, il faut bien les comprendre comme des couches médianes, des couches médiatrices, des couches tampons qui ont un rôle intermédiaire dans la lutte des classes avec d'un côté la bourgeoisie, de l'autre les ouvriers. Après, je peux prendre l'ascenseur social et je peux tout autant continuer à me penser du côté des ouvriers. Alors moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai buté pendant 10 ans. C'est-à-dire que je viens d'un milieu ouvrier, ma mère travaillait à l'usine, sur une chaîne. Mon père, lui, il triait le courrier au PTT. Et je me retrouve à faire des études, je me retrouve à prendre l'ascenseur social, comme vous dites. Et je me dis, mais alors, ça veut dire que je ne suis plus tout à fait un ouvrier. Je ne peux plus me définir comme faisant partie de la classe révolutionnaire, le prolétariat. Alors, du coup, je me situe où ? Je me situe du côté de la petite bourgeoisie intellectuelle, oui, et puis en même temps, je m'aperçois que quand je me retrouve avec des petits bourgeois intellectuels qui sont fils ou petits-fils de petits bourgeois intellectuels, qui ont grandi dans ce milieu, j'ai pas leur code, j'ai pas leur convention, il y a plein de références qui m'échappent, etc. Donc, je me retrouve le cul entre deux chaises. Et du coup, j'ai un problème pour me définir, et c'est un problème quasiment d'identité. Je me situe où ? Et c'est là que, en fait, cette conférence, elle m'a servi, c'est-à-dire que la conférence gesticulée, peut-être que je la fais avant tout pour moi, pour comprendre des choses, ces savoirs assujettis, comme les appelait Foucault, des choses qui sont en moi, mais dont je n'ai pas conscience. Et en fait, je prends conscience, à ce moment-là, en faisant cette conférence gesticulée, que ce qui compte, ce n'est peut-être pas tant de me définir comme étant dans la classe ouvrière, de me définir comme étant dans la petite bourgeoisie intellectuelle, c'est de me définir comme étant dans la classe révolutionnaire. Et ça, pour moi, c'est cet enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on dépasse ce clivage et qu'ensemble, qu'on soit effectivement petit bourgeois intellectuel ou qu'on soit ouvrier, la classe en soi, objectivement, mes conditions de vie font que je suis ouvrier, mais qu'en fait, ensemble, on soit dans un combat contre le capital, et qu'on se définisse comme faisant partie de la classe révolutionnaire. Aujourd'hui, quand on me pose la question à quelle classe que j'appartiens, plutôt que de répondre « j'ai le cul entre deux chaises », je fais partie de la classe révolutionnaire. Et je pense qu'on peut prendre l'ascenseur social et en même temps continuer à se définir comme faisant partie de cette classe révolutionnaire.
Mais peut-être que la difficulté, c'est que vous vous placiez comme le porte-parole de la classe ouvrière avec vos outils intellectuels et que peut-être que c'est en déphasage.
Non mais bien sûr, c'est-à-dire que du coup, dans cette alliance, il y a évidemment un écueil à éviter, c'est qu'on est une petite bourgeoisie intellectuelle dont la mission soit d'éduquer politiquement le peuple ou les ouvriers, le peuple souffrant, enfin je sais pas comment les appeler, pour reprendre quelques références littéraires. C'est là qu'il faut faire de l'éducation populaire. L'éducation populaire a un problème, c'est son nom. Parce qu'effectivement, quand je dis éducation populaire, on entend éducation du peuple. Donc il y aurait des gens qui seraient chargés d'éduquer le peuple. A priori, cette petite bourgeoisie intellectuelle, parce qu'elle a les outils intellectuels, elle lit des bouquins, elle a le temps pour ça de lire des bouquins, enfin bref. L'éducation populaire, c'est pas ça. L'éducation populaire, c'est une éducation dont la forme est populaire, c'est-à-dire qui crée les conditions pour permettre à chacun de s'apporter, pour permettre aux individus de s'instruire ensemble. On a bien cité, ça fait classe de citer ce pédagogue brésilien qui s'appelle Paulo Freire et qui disait « personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul ». Les individus, les hommes et les femmes, s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. C'est ça l'éducation populaire. Et pour ça, l'idée, c'est de partir de nos récits de vie, partir de nos histoires de vie, parce qu'à ce niveau-là, on est à égalité, on a tous un parcours de vie, de prendre le temps de l'analyser et à ce moment-là d'en tirer des conclusions, les conclusions qui s'imposent, qui nous permettent de repérer ce qui fait la domination aujourd'hui, ce qui fait l'oppression, ce qui fait l'aliénation, et collectivement, de mettre en place des stratégies pour dépasser ses dominations, ses aliénations, ses oppressions.
Anthony Pouliquen, l'auteur et l'interprète d'Une autre histoire des classes sociales, c'est une conférence gesticulée et l'invité de la Perle Harbour. Mmh.
C'est une des définitions que l'on peut donner de l'éducation populaire. L'éducation populaire comme l'ensemble des stratégies qu'un groupe d'individus met en œuvre pour résister à la domination. Avec cet écueil, encore une fois, où il n'y aurait pas des sachants, il n'y aurait pas des ignorants, il y aurait des gens qui œuvreraient ensemble au service de cet impératif révolutionnaire.
Vous êtes issu d'une famille de 3 enfants, c'est ça? 2 n'ayant pas le bac et vous qui avez suivi des études. Qu'est-ce qui vous a construit?
C'est une vraie question, c'est pourquoi est-ce que je me retrouve à faire des études supérieures?
Ça veut dire qu'il n'y a pas un déterminisme?
Le déterminisme n'est pas le fatalisme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a du déterminisme, c'est-à-dire que je pense que nous sommes déterminés. Effectivement, l'analyse macro-sociologique nous le montre. Enfin, quand 90% des enfants de profs obtiennent leur bac et simplement 35% des enfants d'ouvriers obtiennent leur bac, on peut se dire que ce n'est pas simplement une question de hasard. C'est qu'effectivement, il y a des déterminismes, mais le déterminisme n'est pas du fatalisme. C'est-à-dire qu'on peut s'émanciper, on peut s'affranchir de ces déterminismes. On peut s'affranchir de la place qui nous a été assignée dans les rapports sociaux. C'était Bourdieu qui disait, disons que...
Oui, mais vous avez reçu la même éducation que...
Oui, mais après, le
vous
milieu familial...
Vous êtes le petit Benjamin ou l'aîné?
Je suis le dernier. Le milieu familial est un des agents de socialisation, c'est même l'agent le plus fort de la socialisation d'un enfant, mais il n'est pas le seul, c'est-à-dire qu'il y a eu dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vie de jeune adulte, des rencontres, souvent par hasard, mais des espèces de personnes qui sont devenues à ce moment-là des tiers privilégiés, des référents culturels, et qui, quelque part, m'ont donné le goût des études, m'ont donné le goût de poursuivre, ou en tout cas m'ont transmis un capital culturel qui m'a ensuite permis de faire des études. Je reprends ce que je disais, parce qu'en fait, effectivement, c'est d'ailleurs le contraire que je dis dans ma conférence, c'est pas une question de goût. C'est pas une question de goût, je le dis, parce que quand je pose la question à mes frangins, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait d'études, ils me disent, on n'aimait pas ça. Et puis, on n'était pas fait pour les études. Or, justement, j'avais cité Bourdieu, si on a lu Bourdieu, on sait que c'est pas une question de est-ce que j'aime ça, est-ce que je suis fait pour les études, c'est plus une question de quels sont mes déterminisme, de quel milieu, de quelle classe sociale est-ce que je viens, quel est le bagage culturel qu'on m'a transmis. Enfin, quand on sait aujourd'hui qu'un enfant qui arrive en CP, un enfant qui vient d'un milieu enseignant, il a été 100 fois plus en contact d'un livre durant l'âge maternel qu'un enfant de classe ouvrière, on comprend que ça a des conséquences ensuite sur le rapport qu'on entretient à l'école. Et donc voilà, je pense qu'on est déterminé. Disons que nous sommes déterminés et que nous avons une petite chance de nous émanciper. Hein. C'est d'ailleurs le travail de l'éducation populaire, le travail de l'éducation populaire qui vise une émancipation non pas individuelle mais collective. Ensemble, on va s'émanciper. On va changer les structures de la société, pour faire vite.
La culture qui nous est transmise, d'une certaine manière, nous enferme dans notre propre classe sociale.
La culture qui nous est transmise nous enferme. Ça va nous obliger à définir ce qu'on entend par culture.
Justement, c'est le propos de la conférence.
Je ne sais pas si elle enferme, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle détermine une trajectoire sociale. C'est-à-dire que lorsqu'on comprend que l'école valorise essentiellement la culture légitime, qui est d'une certaine façon une culture bourgeoise, qui est transmise à certains enfants dans le cadre de la famille, dans le milieu familial, dans le cercle familial, évidemment, cet enfant, lorsqu'il se retrouve ensuite à l'école, il est beaucoup plus à l'aise pour maîtriser les codes, les conventions, etc., que l'enfant qui n'a pas eu ce bagage culturel transmis par la famille. Du coup, l'enjeu, c'est comment est-ce que, quand on est enseignant, par exemple, on ne valorise pas simplement la culture dite légitime, mais on s'intéresse à la culture de tout un chacun dans la classe. Ça peut être la culture, c'est mon exemple, la culture du cyclisme, du Tour de France. J'ai tout un passage dans ma conférence où je parle de comment est-ce que le cyclisme n'a jamais, jamais, jamais fait l'objet du moindre intérêt par mes enseignants, alors qu'on pourrait très bien, à partir du Tour de France, permettre à un enfant d'apprendre les mathématiques, la géographie, etc. Ça a même un nom, on appelle ça la pédagogie Freinet.
Juste là, pour briller à l'antenne, qui est Gustave Garrigou?
Ah ouais, mais moi, là, le Tour de France, je m'y suis surtout intéressé dans les années d'après-guerre. Garrigou doit être un coureur d'avant-guerre qui a dû courir dans les années 20 ou 30, hein, mais malheureusement, je ne pourrais pas en dire
1911.
Beaucoup.
1911. Le Tour de France, 1911.
D'accord.
J'ai pas été assez attentif, parce que je pensais que vous connaissiez...
Ah non, c'est après la guerre, c'est après, à partir de 1947, où je commence à devenir redoutable en connaissance cycliste. Hein. Mais bon,
désolé.
Je pourrais citer Maurice Garin, vainqueur du Tour en 1903, Lucien Petit-Breton, double vainqueur du Tour de France dans les années
1910. Non, je suis désolé parce que je voulais vraiment que vous puissiez briller à l'antenne, mais là, c'est de ma faute.
Demandez-moi qui est Jacques Anquetil ou qui est Louis Ocagna. L'hypothèse de la conférence gesticulée, c'est effectivement de dire que notre histoire de vie prend racine dans des causes structurelles. Voilà, pour le dire très rapidement, et qu'effectivement, une analyse structurelle nous oblige à un moment donné à regarder du côté des chiffres, à regarder du côté des rapports de force, à regarder du côté des collectifs à l'œuvre, du côté des institutions, du regarder du côté des classes sociales, des groupes dans une société, etc. Et en fait, ce que vit une personne, si on prend le temps de l'analyser, ça peut venir, mais de façon sensible, de façon incarnée, de façon encore une fois autobiographique, illustrer une analyse qui serait plus globale, plus structurelle, etc. Donc le « je », le « nous », le « il », tout ça est en interaction permanente, hein, et je pense que ce n'est pas du tout déconnecté, bien au contraire.
Vous tapez vaillamment sur le PS.
Oui.
Pourquoi ne pas citer la palette de tous ces partis qui œuvrent ?
Lorsque François Hollande nous dit dans son discours au Bourget, je crois, avant 2012, « Mon ennemi, c'est la finance ». C'est-à-dire que clairement, il tient un discours de gauche. Lorsque Mitterrand, en 81, se fait élire sur le programme commun, il se fait élire sur une position de gauche. Aujourd'hui, quand Benoît Hamon se présente à la présidentielle, il se présente sur des orientations de gauche. J'ai arrêté de croire à ce grand mensonge. Quand effectivement j'analyse l'anticapitalisme ne peut être que de gauche, il ne peut pas être de droite, enfin, je ne crois pas qu'on puisse être anticapitaliste et être de droite, il y a quelque chose d'antinomique, enfin, je pense que ça ne fonctionne pas. Et donc c'est d'essayer de démontrer ce grand mensonge que le Parti Socialiste serait un parti de gauche, oui. Ne serait-ce que dans son appellation, oser s'appeler socialiste, enfin je veux dire, alors qu'ils sont contre le socialisme. Et donc c'est vrai que j'en arrive un peu à une espèce d'aberration, enfin de dégoût vis-à-vis du Parti Socialiste, qui à chaque fois nous refont le coup, et là ils sont en train de nous le refaire. Bon, nous avons changé, regardez Benoît Hamon, ok, nous avons pris un peu un tournant libéral, malgré nous, mais désormais nous remettons sur une position de gauche. Si Benoît Hamon était élu, ce qui a assez peu de chances d'arriver, il ferait la même chose que François Hollande. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je règle mes comptes avec ce parti qui définitivement a tourné le dos aux ouvriers, qui définitivement oui, mais... n'est plus de gauche. Et donc voilà, c'est un
donc
peu l'objet de mon propos.
Vous avez votre conviction, mais vous adressez donc à un public.
Oui.
Je dis absence de perspective.
La perspective en termes de parti. Oui, je fais le choix effectivement de ne pas me positionner dans cette conférence en faveur de tel ou tel parti. Peut-être parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un parti dans lequel je me retrouve et que je pense que notre salut viendra de la rue, viendra des mouvements sociaux et mon énergie, je souhaite davantage la mettre dans les mouvements sociaux qu'au sein d'un parti politique. On parle des politiques culturelles, ça m'oblige à faire une petite précision. On a assisté au cours des 50 dernières années à un grand hold-up idéologique qui est la réduction de la culture à l'art. Aujourd'hui, si on fait un micro-trottoir et on demande à des passants qu'est-ce que la culture aujourd'hui, ils nous répondent c'est l'art. Le ministère de la Culture, c'est le ministère des Arts. Mais pas n'importe quel art, enfin, je veux dire, les chanteurs hip-hop dans les quartiers, on les considère pas comme faisant partie de la culture. Non, c'est une certaine forme d'art. Et bizarrement, c'est encore une fois l'art bourgeois qui va être financé par la DRAC, qui va être financé par les politiques culturelles. C'est le grand T, c'est l'opéra, c'est tout ce savoir, enfin, c'est toute cette culture qu'on appelle élitiste, je lui donnerai pas de qualificatif. Moi, ce que je reproche, hein, ce n'est évidemment pas le fait qu'on puisse aimer aller à l'opéra. Ce n'est évidemment pas le fait qu'on puisse s'intéresser même au cinéma de la Nouvelle Vague, qu'on puisse aimer lire de la littérature classique. Ce que je reproche, ce n'est pas non plus qu'en tant qu'adulte, on souhaite transmettre ce bagage à des enfants, à des adolescents ou même à d'autres adultes. Ce que je critique, c'est l'hégémonie de cette approche de la culture. Le fait que 50 ans de politique culturelle depuis 1958 et le ministère Malraux, avec une apogée sous Jack Lang, hein, et reprise depuis d'ailleurs, hein, 50 ans de politique culturelle est rendue exclusive cette approche de la culture. une culture désormais qui devrait s'adresser au peuple sous forme de ce qu'on appelle la démocratisation culturelle, donc c'est-à-dire une élite éclairée qui viendrait déverser de la culture sur les quartiers, sur les ouvriers, etc. Et on ne parle jamais de cette autre forme de culture. Qu'est-ce qu'on fait de la culture ouvrière? Qu'est-ce qu'on fait de la culture paysanne? Qu'est-ce qu'on fait de la culture féministe? Et ça, pour moi, c'est cette deuxième approche de la culture que moi j'appelle l'éducation populaire, où on parle des cultures des gens et on leur permet, par des méthodes et des outils adaptés, qu'on appelle les outils de l'éducation populaire, on leur permet de se construire, par le croisement de ces cultures, un savoir politique utile pour l'action collective. Donc moi, ça m'irait si demain, une politique culturelle s'entendait sur le tressage de ces deux approches de la culture. Ok, une culture qui arrive un peu d'en haut, mais ça n'est pas de mal, mais une culture d'en bas qu'on valorise dans une logique ascendante ou circulaire, ou je ne sais pas comment le dire. Le problème, c'est que ça n'est jamais entendu comme un acte culturel, le fait de travailler avec des hommes ou des femmes dans les quartiers autour de la condition d'immigrés aujourd'hui en France. Au mieux, on va appeler ça l'éducation populaire ou de l'animation socioculturelle ou du travail social. Ça n'a jamais été pensé comme de la culture. Je propose juste une abstraction, d'imaginer demain un Martien qui débarque sur Terre, qui vient en France, on l'amène à Nantes, et puis on lui explique que dans une maison de quartier, là, il y a une représentation de danse par des adolescents et des adolescentes de quartier qui ont fait un stage pendant toute la semaine. Il se rend dans cette salle, il s'assoit sur scène, il y a des danseurs, des danseuses qui lèvent un pied l'un après l'autre, qui font des figures avec les bras. Et il repart. Et là, on lui propose d'enchaîner son parcours de la ville par un spectacle au Grand T où il y a des danseurs et des danseuses, une compagnie d'art contemporain qui débarque de Paris. Et là, il s'assoit dans la salle et puis il voit sur scène des personnes, des danseurs et des danseuses qui lèvent un pied, qui le posent l'un après l'autre, qui agitent leurs bras. Il sait, j'ai vu la même chose. Et là, on lui explique que ce n'est pas du tout la même chose. Que dans un cas, il a assisté à de la culture et dans l'autre cas, il a assisté à de la socioculture. Et cette séparation, elle est d'une violence institutionnelle énorme. Et cette violence, c'est aussi ce qui crée le clivage de classe entre la petite bourgeoisie intellectuelle et la classe ouvrière. C'est aussi ce que j'essaie de démontrer dans ma conférence, ou comment la culture est un objet de clivage entre les deux cœurs sociologiques de la gauche. Et que pour permettre de nouveau cette alliance, pour permettre ce bloc historique dont parlait Gramsci, je pense qu'il faut aussi qu'on ait une réflexion sur la culture et que les élus y s'interrogent sur qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui lorsqu'on a une commission culture de ne traiter que de la programmation du théâtre ou de l'opéra ou de toutes ces institutions subventionnées par le ministère de la Culture.
Vous ne faites pas de distinction entre la pratique amateur et la pratique professionnelle?
Ce n'est pas un enjeu pour moi. Il faut juste comprendre que la séparation des champs, elle est au principe de la domination. C'est-à-dire que du coup, on a aujourd'hui toute une séparation des champs. On va avoir ce qui relève du social, ce qui relève du socioculturel, ce qui relève de la pratique amateur artistique, ce qui relève de la pratique professionnelle artistique, etc. À chaque fois que l'on met des barrières en place, par ce principe de champ, on crée des dominations. En vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire exploser toutes ces barrières pour qu'ensemble, on puisse se retrouver autour de l'enjeu politique. C'est ça, pour moi, qui compte. Qu'on soit travailleurs sociaux, animateurs socioculturels, artistes, etc., qu'ensemble, on puisse mettre en place tout un tas d'initiatives conscientisantes qui nous permettent de nous construire un point de vue sur le monde et qui permettent ensemble de résister à la domination.
Une pratique culturelle à la Perle, le chant, interprété par la chorale de la Perle. Aujourd'hui, deux micros pour trois choristes. On a toujours des surprises, on ne sait pas qui va venir.
C'est une très bonne surprise d'avoir Lydie qui nous a rejoint ce soir.
Lydie Riollet, Agnès Diaz et Laurent Messager.
Aujourd'hui, nous sommes attachés au choix des prénoms, qui pour nous ont forcément une force. Dans la suite et dans l'avenir. Donc on ne dira pas le titre de la chanson.
Non.
Bien sûr, vous allez comprendre que le titre est dans la chanson.
Tous les prénoms que nous portons lorsqu'ils ne sont pas attachés à un visage évoquent souvent par association une certaine idée reçue ou une image. Dans un roman, si vous rencontrez un Charles Hubert, vous attendez un haut dignitaire à particules, tandis que si le personnage s'appelle Robert, vous entendez la bière qui se décapsule.
Mais un Michel, qu'est-ce que c'est un Michel? ça sonne juste pas mal dans la bouche. Dans Michel, y a mi et puis y a chel. Nous mettons en garde les jeunes parents qui cherchent un prénom pour leur enfant, pour choisir un qui corresponde à la dure réalité de notre monde. Plus tard, quand ils chercheront à travailler, des gens sans scrupules n'hésiteront pas à mettre à la poubelle leur curriculum vite fait si le prénom de votre enfant ne convient pas. Mais un Michel.
Ah, c'est gentil, un Michel.
C'est gentil, un Michel.
Ça ne ferait pas de mal à une mouche.
Mais une mouche, elle, elle s'en fout des Michel.
Enzo Roberto, ça fait italien. Tandis que sa verge, ça fait javanais. Yuri ou Igor, ça fait plutôt russe, tandis que ça fait con. Y a des prénoms qui font très bêtes et méchants. Pour ne pas choquer, je ne dirai pas lesquels. Il y en a d'autres qui font intelligents, comme par exemple
Agnès,
Lydie
ou Laurent.
Mais un Michel.
C'est sympa, Michel.
C'est sympa, un Michel.
Y'a pas besoin d'en mettre plusieurs couches. Dans Michel, y'a Miche et puis y'a elle.
Merci. Et l'auteur?
Alors l'auteur, ce sont donc les Joyeux Urbains et la chanson s'appelle À Michel.
Nous venons de diffuser un numéro de La Perle Arbour dans une nouvelle version. Merci à Anthony Pouliquin, l'auteur et l'interprète d'Une autre histoire des classes sociales, pour sa libre participation à ce programme réalisé avec les complicités de Yann Le Taéron, Lydie Riollet, Agnès Dièse et Laurent Messager.